Amédée Achard, L'eau qui dort. On voyait en 1809 à Paris, dans la rue Miroménil, un vieil hôtel que de récentes constructions ont fait disparaître et qui depuis plus de 20 ans semblait menacer ruine. Mais tel qu'il était, solidement bâti en fortes pierres de taille noircies par les pluies des 100 hivers, il aurait bravé les efforts du temps si un matin la spéculation l'en avait jeté par terre. Cet hôtel, élevé jadis par un président amortier du Parlement, se composait alors d'un grand bâtiment à toit mansardé, précédé en retour de 2 ailes moins hautes dont le rez-de-chaussée, disposé pour les écuries et les remises, encadrait une vaste cour où l'herbe verdissait entre les pavés. Un jardin où s'allongeaient 2 allées de tilleuls taillées en forme de charmille, entre lesquelles s'étalaient carrément quelques plates-bandes fermées par du buis, s'étendait derrière l'hôtel. Tout alentour de ce jardin monotone montait pesamment un grand mur tapissé de lierre, dont les épais rameaux étouffaient à demi une vigne énorme qui donnait encore, malgré son grand âge, quelques pampres, et ça et là, en automne, une 12aine de grappes de gros raisins que des bandes de moineaux se disputaient. La cour allait si bien à l'hôtel et l'hôtel au jardin qu'ils avaient comme un air de ressemblance et de parenté. On ne concevait pas que l'un appartenait pas à l'autre et, tous 3 ensemble, également vieux, également tristes, également solennels, se complétaient comme la perruque, le rabat et la canne à bec de corbin complétaient jadis la toilette d'un magistrat. Ils avaient cette harmonie que donne le temps. Une série d'appartements hauts, dont rien, large, incommode, magnifiquement décoré, n'avait pu éteindre les dorures, en occupait l'intérieur. Un perron de 5 marches, flanqué de vieux éteignoirs de tôle plantés dans la muraille, à droite et à gauche, conduisait de la cour au rez-de-chaussée, où d'immenses salons, disposés en enfilade, ouvraient leurs portes-fenêtres sur le jardin, qui était de plein pied avec l'hôtel. Les chambres à coucher étaient au-dessus. On y arrivait par un large escalier de pierre à rampe de fer ouvragée, dont la cage aurait pu servir de cadre à une maison. Le bruit des pas y réveillait de longs échos qui grondaient sous les plafonds. Le propriétaire de l'hôtel avait conservé les ferrures dorées des fenêtres, les antiques portes de bois à riche moulure, les corniches, les trumeaux, les voussures, les grandes glaces coupées en 2 morceaux et encadrées de superbes boiseries sculptées avec un art curieux. Mais le mobilier rappelait un peu toutes les époques et toutes les modes. À côté d'un boudoir où une marquise de la cour de Sceaux n'aurait pas dédaigné de promener ses mules, un salon offrait un spécimen de forme inventée par le directoire. On pouvait voir, dans la pièce voisine, les cols de cygnes, les sphinx et les griffes de lion, chers aux tapissiers de l'Empire, et plus loin, des sofas, des fauteuils, des tabourets du plus pur style Louis XVI, garnissaient un réduit qui semblait dérobé aux appartements de Trianon. Madame de Châteauroux, la princesse de Limbal, Barras, le général Rogeau et Cambacérès auraient pu se rencontrer dans ce singulier hôtel sans en être surpris. Certaines chambres présentaient plus particulièrement encore le spectacle de cette variété. L'acajou, le bois de rose, le palissandre, le citronnier s'y coudoyaient, fraternellement recouverts ici de lampins et de là d'étoffes de Perse. Des rideaux de taffetas accompagnaient des tapisseries de haute lisse. Le tout ensemble, néanmoins, avait grand air. On parlait bas, malgré soi, en traversant ces grandes pièces qui inspiraient le respect et où l'on sentait la durée et la tradition. À l'époque où commence ce récit, l'hôtel de la rue Miroménil était occupé par M. Détournelle, un riche maître de forge, sa femme et ses 2 filles, Berthe et Lucille. Depuis quelques années déjà, le maître de forge avait quitté ses vastes établissements et ses belles forêts de la Bourgogne pour se consacrer exclusivement à l'éducation de ses filles, qu'il n'avait jamais voulu mettre dans un couvent. Il avait à cet égard des principes arrêtés et croyait que l'excellence est le nombre des professeurs, l'émulation qu'il y a de l'agglomération des élèves, la règle et l'uniformité d'enseignement ne sauraient remplacer ce qu'on gagne en bons exemples, en saine morale, au contact tendre et quotidien de la mère et de la famille. Madame des Tournelles partageait de tout point les opinions de son mari, et on peut dire que depuis le jour de leur naissance, Berthe et Lucille n'avaient jamais passé plus d'une heure loin des yeux de cette excellente femme. Sa vie se résumait dans ses deux enfants. On ne pouvait voir monsieur et madame des Tournelles sans être étonné de la grande différence qui existait physiquement et moralement entre deux personnes si profondément unies par la plus étroite et la plus absolue affection. Le maître de forge, grand, vigoureux, solide, armé de bras robustes et de jambes infatigables, intrépide chasseur autrefois, avait sous un front large et puissant des yeux noirs et fermes dont il était presque impossible de soutenir le regard. Tout dans cette physionomie ouverte et rude indiquait l'excessive énergie du caractère, servie par des organes que la maladie n'avait jamais effleurés, comme si elle eût craint de se briser dans une lutte inutile contre un homme dont les membres semblaient avoir été taillés dans le cœur d'un chêne. Au contraire, Madame des Tournelles, petite, mince, blonde, avec des attaches fines, un corsage grêle, la voix douce, le regard timide, quelque chose de plaintif dans l'apparence, silencieuse et comme recueillie en elle-même, disparaissait tout entière dans l'ombre de son mari. En posant un peu durement sa large main sur cette épaule délicate, on pouvait craindre qu'il n'anéantît d'un seul coup la frêle créature qu'il avait à son côté. Mais pour elle, ce taureau avait des soins, une mansuétude, des prévenances, en quelque sorte des caresses de petits chiens et des câlineries d'enfants, qui touchaient par la constance et la douceur de leurs témoignages. Les plus vieux amis de la maison ne se rappelaient pas qu'il y eût par hasard un nuage entre eux. Il faut dire aussi que Madame des Tournelles, heureuse et reconnaissante, s'appliquait en toutes choses à plaire à son mari. Elle y avait peu de mérite, l'aimant de tout son cœur, disait-elle, et sachant aussi qu'elle était avec ses filles sa seule pensée, son unique préoccupation. Peut-être même pensait-elle avant Berthe et Lucille dans les affections de monsieur des Tournelles. Mais c'était une nuance dont seule elle avait conscience et que par un sentiment indéfinissable, elle cherchait à ne pas voir. Elle n'aimait pas davantage à faire étalage de l'empire qu'elle avait sur son mari et mettait autant de soin à le cacher que d'autres à montrer leur petite influence. Cependant, douée d'un sens très étroit et d'un sentiment exquis du juste et de l'injuste, il lui était arrivé de s'en servir deux ou trois fois dans des circonstances où sa voix avait été obéie avec la plus entière et la plus aimable promptitude. À ce moment de sa vie, riche, entourée de l'estime et de l'affection, non seulement des siens, mais encore de tous ceux qui l'approchaient, et comblée de tous les biens qu'elle pouvait souhaiter, Madame des Tournelles succombait sous le poids d'un chagrin qui la minait sourdement. Elle avait perdu un fils, son premier-né à l'âge de 26 ans, au moment où il venait de recevoir ses épaulettes de capitaine. Atteint par la balle d'un arabe, la blessure qu'il avait emportée saignait encore au cœur de la mère et tarissait les sources mêmes de la vie goutte à goutte, comme s'épuise une fontaine brûlée par les ardeurs trop longues de l'été. Ce fils était son Benjamin, l'élu de ses entrailles. Mais les révélations soudaines qu'elle avait eues de cette préférence, à la suite d'une maladie pendant laquelle l'enfant avait failli mourir, l'avaient attristée, en quelque sorte même froissée dans la partie la plus intime de son être, et la femme, selon l'Évangile, s'en était punie en témoignant d'abord à son fils une tendresse plus avare et en consentant ensuite à son éloignement. À la mort de Jean, elle se raidit contre ses désespoirs pour qu'on n'en devinât pas l'effroyable profondeur. Cette douleur constante était encore accrue par cette pensée que si elle avait moins aimé ce fils, elle ne se serait pas condamnée à lui voir embrasser une carrière qui, en le séparant d'elle, le faisait courir au-devant de mille dangers. Il ne fallait pas non plus que M. des Tournelles, frappé dans son orgueil de père, ne trouvât plus sous sa main le cœur simple, bon, dévoué, dans lequel il était accoutumé à puiser ses meilleures consolations. Elle se releva donc pour le soutenir, mais la plaie était vivante en elle, et la violence de l'effort hâta sa course vers le tombeau. Quand elle expira, il y avait déjà 10 années que M. des Tournelles habitait Paris, et ses deux filles étaient également en âge d'être mariées. L'aînée, Lucille, avait près de 20 ans, Berthe un petit peu plus de 18. Lucille était brune, Berthe d'un châtain clair tournant au blond avec des reflets couleur d'or près des tempes. Elles étaient grandes et sveltes l'une et l'autre, mais c'était là le seul point de ressemblance qu'on remarquât entre elles. Leur existence à toutes deux, séparées qu'elles étaient par un petit nombre de mois, 15 ou 18, avait été pareille à deux ruisseaux qui, partis du même horizon, traversent les mêmes campagnes. La même tendresse les avait abritées. Il n'était pas jusqu'alors un chagrin, une distraction, une surprise, un voyage, un plaisir, un travail qu'elles n'eussent partagé. Entre ces deux filles, Madame des Tournelles avait tenu dans un juste équilibre les deux plateaux de la balance. Mais si Lucille le croyait, Berthe allait plus au fond et le savait. Elle savait aussi que la pensée de sa mère regardait au-delà dans le passé et qu'il y avait dans un coin de son cœur une déchirure sur laquelle la cicatrice ne se ferait jamais. Un jour, Madame des Tournelles surprit Lucille dans un coin, les yeux rougis. La jeune fille boudait parce que sa sœur venait de recevoir une belle montre d'or de son parrain et qu'elle en désirait une semblable. Madame des Tournelles l'attira sur ses genoux. « Mais tu en auras une, dit-elle. Tu sais bien que je t'aime autant que Berthe. » « C'est vrai, dit Berthe avec une certaine amertume. J'en ai plus là. » Madame des Tournelles tressaillit et devint pâle. Sa fille cadette se jeta dans ses bras. Ah, reprit-elle, je donnerai tout mon sang pour qu'il pût t'embrasser encore. La mère la serra sur son cœur. Cruel enfant, ne parle plus ainsi, murmura-t-elle avec des larmes dans les yeux. Berthe le jura et tint parole. Mais si quelques mots avaient suffi pour que la pauvre femme comprît qu'elle n'était plus seule à posséder son secret. Cette perspicacité profonde, qui se montrait par éclairs vifs et inattendus, n'était pas le seul trait singulier d'un caractère où tout semblait en désordre et confusément mêlé, le bien comme le mal, la passion comme l'indifférence, la résolution aussi bien que l'apathie, l'emportement aussi que la patience. Personne n'y voyait bien clair au fond, pas plus les professeurs de Berthe que son père. La seule chose qui faisait nettement saillie était une sorte d'entêtement obstiné qui la rendait tout à coup pareille à la pierre et que rien ne pouvait vaincre, si ce n'est parfois un flot de tendresse faisant irruption tout à coup. Mais le flot ne venait pas toujours, et on ne savait jamais quelle parole, quel hasard ou quelle baguette en ferait jaillir la source mystérieuse. Monsieur des Tournelles, qui combattait cette tendance de toutes ses forces, ne la signalait point cependant sans un secret plaisir. C'était pour lui comme le germe d'une persévérance et d'une fermeté qui, bien dirigée et sous l'empire de certaines circonstances, pourrait porter de beaux fruits. Ce qu'il aimait moins, c'était le perpétuel contraste qu'on remarquait dans l'humeur de Berthe. Un jour gai, le lendemain triste, paresseuse à l'excès ou plus active qu'une abeille, tapageuse et remonte comme une toupie d'Allemagne qui ronfle et court partout, et l'heure d'après, immobile et rêveuse comme une nonne en contemplation. Un matin bonne, soumise et prompte à l'obéissance, prodigue, vivant ses poches et ne sachant à qui donner, et le jour suivant, âpre, revêche, quinteuse, prête à fermer sa main comme son cœur. Certains accès de violence et d'emportement inexplicables duraient parfois plus d'une semaine, sans que rien pût en modifier les témoignages. Elle était acerbe et malfaisante comme un fruit vert. Le regard était aigre, la parole acide. La semaine écoulée, Berthe tombait dans de longs silences et de grands accablements qui n'avaient pas moins de durée et dont elle sortait bizarrement par des réveils soudains. Pourquoi M. des Tournelles, qui l'observait sans cesse et s'appliquait avec suite à la corriger, avait-il pour Berthe un peu de cette préférence que sa femme avait eue pour Jean? Peut-être l'inquiétait-elle plus que sa sœur. Peut-être prévoyait-il pour l'une des luttes et des épreuves qu'il ne redoutait pas pour Lucille. Quand il voyait Berthe dans ses phases, dans ses lunes, disait-il gaiement, de silence et de calme, il avait coutume de menacer du doigt en riant quiconque essayait de l'en tirer par des agaceries ou des supplications. Ne réveillez pas l'eau qui dort, répétait-il. Et de cette allocution familière, on avait fait un surnom qui était resté à Berthe. Lorsqu'en rentrant, le maître de forge demandait ce que faisait sa fille cadette, il n'était pas rare d'entendre Madame Détournelle ou Lucille répondre un jour « Ah, l'eau qui dort travaille !» et le lendemain « L'eau qui dort joue !» Avec ce caractère variable et farouche, Berthe n'aurait pas inspiré beaucoup d'affection si par intervalle elle n'eût éprouvé des mouvements impétueux d'une tendresse chaude qui se répandait sur tous ceux qui l'entouraient avec une grâce, une abondance, une vivacité qui la rendaient irrésistible. L'inquiète, la mobile, l'impérieuse, la violente Berthe avait disparu. C'était une aimable fille dont le cœur se fondait et qui trouvait pour les siens comme pour les serviteurs de la famille des paroles et des caresses d'une douceur et d'une onction que rien n'égalait. Elle pouvait changer avec le vent, le souvenir ne s'en effaçait pas, et si plus tard elle rudoyait sa gouvernante ou sa sœur, un domestique ou un ami, on lui pardonnait quand même. Berthe avait auprès d'elle une vieille bonne qui avait été sa nourrice, qui la gâtait à plaisir et qu'elle tourmentait de son mieux. Quelquefois, à bout de patience, la pauvre créature se mettait à pleurer. Dieu du ciel, disait-elle, faut-il que vous soyez méchante pour vous faire détester ainsi? Alors Berthe la secouait par les épaules. Eh non, répondait-elle, il faut au contraire que je sois bien bonne pour que tu ne puisses pas t'empêcher de m'aimer. Ça, c'est vrai, reprenait l'excellente femme en s'essuyant les yeux. Lorsqu'on interrogeait Berthe sur les motifs de ses révoltes et fréquences, succédant sans transition à des heures de soumission absolue, elle répondait naïvement qu'elle n'en connaissait pas l'origine, que c'était comme un feu qui était en elle, qu'elle en sentait les bouillonnements intérieurs et qu'il fallait que l'explosion se fît. Elle n'en pouvait que retarder le moment, et encore à grand-peine. Les maîtres de toute espèce ne manquèrent pas à Lucille et à Berthe. Elles en profitèrent également à cette différence près que celle-ci faisait en quelques semaines le travail de plusieurs mois. L'une avait la patience et la continuité, l'autre l'élan et le feu. Et à la fin de l'année, au point de vue du résultat, leurs études se valaient. Musique, langue, dessin, histoire, géographie, elle savait un peu de tout et suffisamment pour bien comprendre qu'elle ne savait rien, ce qui témoignait en faveur de leur intelligence et de leur bonne foi. Cette éducation brillante, qui depuis l'âge de 8 ans leur avait fait parcourir le cercle entier des connaissances qui sont du domaine des femmes, n'empêchait pas que les deux sœurs ne fussent pliées pendant de longues heures à des travaux d'aiguille où leur mère les dirigeait. Les amis de la maison qui connaissaient la fortune de M. des Tournelles ne comprenait pas bien l'importance qu'il attachait à ses occupations manuelles, auxquelles Lucie et Berthe ne devaient pas manquer de renoncer aussitôt qu'elles seraient mariées. Mais le père tenait bon, estimant qu'une fille qui sait ourler prestement une douzaine de mouchoirs peut exécuter une sonate aussi brillamment que celle qui s'oublie devant un miroir ou s'endort un journal de mode à la main. En toute chose, il semblait conduit par cette pensée qu'un jour les deux héritières pouvaient être privées de tout. Elles faisaient leur lit et taillaient leurs robes. Dès leur 15e année, Madame Détournelle, guidée par les mêmes principes, les mit tour à tour à la tête de la maison. Elle comptait avec les fournisseurs, ordonnait la dépense, réglait le menu des repas, et les domestiques avaient ordre de s'adresser à elle seule pour tout ce qui regardait la direction et l'économie du ménage. Chacune d'elles administrait pendant 3 mois. Mais remarquez que la jeune dépense était plus considérable pendant l'administration de Berthe. On n'épargnait pas les observations à l'enfant prodigue, qui n'y prenait pas garde. Une fois, néanmoins impatientée, elle demanda à son père si elle avait dépassé le chiffre de leurs revenus. « Non, certes, répondit le maître de forge. « Alors pourquoi tant économiser ? » répliqua-t-elle. Quand on connaissait les deux sœurs, on ne comprenait pas qu'elles fussent du même sang, qu'elles eussent reçu la même éducation. L'humeur égale et sereine de Lucille ne se démentait pas une minute en 6 mois. Telle on la retrouvait en automne après l'avoir vue au printemps, fraîche, souriante et gaie comme une matinée d'avril. Elle était prompte, diligente et complaisante. Sa voix, sa démarche aisée et rapide, son sourire, la bienveillance aimable de son accueil, quelque chose d'expansif, tout donnait l'idée d'une personne heureuse de vivre, et ce qu'on voyait d'elle ne démentait pas cette première impression. Elle était bonne à tous et à toute heure. Elle avait cet art singulier de découvrir sans effort le bon côté de toute chose et de s'accommoder des plus désagréables. Encore, n'était-ce pas de l'art chez elle? C'était la nature qui parlait et qui agissait. Son père disait de Lucille qu'elle était fille à tirer du miel d'un rameau de ciguë. La seule chose qu'un observateur intéressé à l'étudier eût reproché à cet ensemble de qualités charmantes, c'était peut-être un peu de banalité, et par ce côté-là encore, elle s'écartait pleinement de sa sœur. Il ne fallait pas faire grand fond sur l'amitié que Lucille témoignait aux personnes qu'elle recevait avec le plus d'effusion. La porte fermée, elle n'y pensait peut-être plus beaucoup. Les gens partis, elle les oubliait. Ce n'est pas qu'elle ne fût tout à fait sincère dans l'expression de ses sentiments, mais les impressions qui la dominaient étaient fugitives et laissaient si peu de traces dans son cœur et son esprit qu'il lui fallait un grand effort de mémoire pour qu'elle parvînt, après une absence d'un an ou deux, à se souvenir de ceux qu'elle avait aimés le plus. Tout glissait sur cette rieuse et belle fille comme la pluie sur la fleur blanche et veloutée d'un beau lys. Un vieux chimiste qui allait en visite chez le maître de forge disait de Lucille en langage scientifique qu'elle était réfractaire au malheur. Le fait est qu'on ne l'avait jamais vue pleurer plus de 5 minutes. Au plus fort de ses chagrins d'enfant, elle se frottait tout à coup les yeux et partait en courant, laissant après elle le frais retentissement d'un éclat de rire, plus vif et plus joyeux que le chant du pinson. Le seul être pour lequel elle éprouva une tendresse entière et constante était Berthe. Berthe pouvait la tourmenter, Lucille le trouvait bon. Il ne fallait même pas qu'on s'avisât de prendre sa défense. Lucille alors se cabrait d'importance, renouvelant au profit de sa sœur, et sans le savoir, la fameuse scène de Martine et du voisin. Berthe, il est vrai, l'adorait, et tout en ne lui épargnant ni les rebuffades ni les caprices, ne souffrait pas qu'une autre qu'elle la molestât. Mais, plus exclusive et concentrée en elle-même, Quelquefois, Berthe abandonnait sans motif apparent les jeux où Lucille s'égarait avec ses petites compagnes et se retirait dans un coin sombre du jardin. Si Lucille, étonnée, tentait de l'y suivre au bout d'un quart d'heure et de l'interroger, Berthe la repoussait du banc. Mais que t'importe de jouer avec moi, si tu peux t'amuser sans moi, disait-elle. Bien que l'éducation des deux sœurs eût été de tout point pareille, dirigée par les mêmes professeurs, elles étaient loin de pouvoir lire les mêmes livres et d'en tirer les mêmes fruits. Certaines lectures qui n'avaient produit sur l'esprit de Lucille qu'une impression fugitive de tristesse évaporée un soir en quelques larmes, avaient laissé dans celui de Berthe des traces qu'on reconnaissait encore après de longs intervalles. C'était comme le soc de la charrue dans une terre forte, le sillon laissait rester creux. Elle se passionnait pour les événements de l'histoire aussi bien que pour les personnages de la fiction. Que de pleurs qui coûtèrent les infortunes et la mort romanesque d'Edgar de Ravenswood! Que de frémissements de colère et d'insomnie lui causèrent les malheurs augustes et le trépas épique de Marie-Antoinette! Elle avait le cœur gros et le sang en feu. Rien ne glissait, tout pénétrait. Il fallut, après des nuits de fièvre, que Madame d'Étournelles fît un choix sévère parmi les livres que Berthe fut autorisée à ouvrir. Lucile, étonnée de ses grands sentiments, se moquait d'elle souvent. Mais elle pleure donc plus et te fâche pas, disait-elle, ils sont morts. Oui, mais ils ont vécu, répondait Berthe. Que rêvait-elle dans ces moments d'excitation? Quel trésor de tendresse, de courage, d'énergie ne dépensait-elle pas au milieu de ce trouble et de cette angoisse inexprimable? Elle les enfouissait en tremblant dans les replis les plus secrets de son cœur. L'hôtel de la rue Miromesnil, qui était ouvert à beaucoup de monde dès les premiers temps qui suivirent l'arrivée de M. d'Étournelles à Paris, le fut bien davantage encore après que Lucile et Berthe eurent dépassé l'adolescence. M. d'Étournelles aimait à recevoir. Il avait un grand train de maison. Quelques personnes bien choisies dînaient fréquemment chez lui. On y dansait 3 ou 4 fois pendant l'hiver. Ses filles, dès qu'elles eurent 16 ans, l'accompagnèrent une fois par semaine aux Italiens et à l'Opéra, quelquefois dans d'autres théâtres. Appelés par leur fortune à vivre dans le monde le plus brillant, ils voulaient qu'elles apprissent de bonne heure à le connaître pour n'en être pas éblouies plus tard. Toutes les libertés compatibles avec les exigences des mœurs parisiennes, il les leur permit, afin, disait-il, de les plier tout doucement aux habitudes de la réflexion et aux enseignements de l'expérience. Par ce côté, leur éducation eut une physionomie anglaise qui donna au caractère des deux sœurs plus de relief et de contour. Mais tandis que Lucile apportait dans cette vie facile, bien que réglée, un entrain et une gaieté qui ne laissaient pas de doute sur le plaisir qu'elle éprouvait à en savourer les douceurs, on ne savait pas si Berthe s'y plaisait ou s'y soumettait. Il lui arrivait souvent de ne pas quitter la danse pendant toute une nuit, et souvent aussi de traverser un bal avec la pâleur d'Iphigénie sur le front. Aux heures où il y avait le plus de monde à l'hôtel, et quand la conversation était la plus animée, il n'était pas rare de la surprendre au fond du jardin, assise sur un banc, les mains croisées sur les genoux et les yeux dans l'espace. Et la veille, personne n'avait causé avec plus d'abandon et de vivacité. Chose singulière, cette jeune fille, dont le caractère était souvent en lutte avec celui de M. d'Étournelles, pour qui elle était un sujet d'examen et une cause de trouble, était précisément celle qu'on chargeait des demandes épineuses et des négociations difficiles. Lorsqu'un subalterne avait une faute à se faire pardonner ou une permission à obtenir, Quand Lucille elle-même était sous le coup d'une fantaisie qui ne lui semblait pas tout à fait raisonnable, on envoyait Berthe en ambassade auprès du maître de forge, et jamais Berthe n'hésitait. Si d'aventure M. des Tournelles grondait un peu, Berthe insistait hardiment et il cédait, tandis que Lucille se mourait de peur derrière la porte. Cette même personne qui bravait en face un homme devant qui tout tremblait devenait livide pour chanter une romance au piano devant des imbéciles. Mais sur ce chapitre, le maître de forge avait une volonté bien arrêtée. Il fallait chanter, dut-on pleurer avant et s'évanouir après. Et la raison était qu'il fallait faire simplement les choses simples. La timidité n'était pas un motif de s'abstenir. Excessive, elle avait un faux air de prunerie et de prétention dont il était bon de se corriger. On était quelquefois surpris de la trace profonde qu'avait laissée dans cet esprit libre et violent des événements d'une importance médiocre en apparence et sur lesquels de nombreuses années s'étaient accumulées lentement. Alors que Lucille, 6 semaines après, avait complètement oublié les choses qui l'avaient le plus charmée ou le plus attristée, on voyait Berthe tressaillir encore à de longues distances au souvenir de certains faits que sa mémoire implacable lui rappelait tout à coup. La cicatrice faite, le ressentiment de la blessure était le même. Berthe donnait chaque année le 17 octobre un exemple remarquable de cette malheureuse fidélité. On la voyait dès le matin inquiète, agitée. Rien ne la distrayait plus. Elle évitait toute conversation et fuyait tout travail. Certaines lueurs fauves que sa mère connaissait bien passaient dans ses yeux. Elle se retirait à l'écart, au fond du jardin, sous un vieil ormeau à l'ombre duquel elle négligeait d'ouvrir le livre qu'elle avait emporté. Cet état durait jusqu'au soir. Les paroles tombaient une à une de sa bouche. Le sourire était contraint, le son de la voix sec et bref, le geste anguleux et dur. Irascible et intraitable, elle semblait couver des orages dans son silence. Un jour, qu'il était question d'une soirée à passer au théâtre, elle secoua la tête. Madame des Tournelles lui demanda si elle se sentait indisposée. « Non, répondit Berthe, mais je le serai certainement avant 1 heure, si on veut me contraindre à sortir. »« Et tu as donc la maladie et la santé à tes ordres ?» répliqua sa mère gaiement. Berthe prit sur la table une paire de ciseaux. « Croyez-vous donc, dit-elle, qu'il soit très difficile de me déchirer le bras avec ce bout de fer ?» On dira que c'est de l'accident, je resterai. » Madame des Tournelles, effrayée, lui arracha les ciseaux des mains. « Mais tu folle ? » reprit-elle. Berthe posa froidement son ongle sur la page d'un journal, en tête de laquelle on lisait la date du 17 octobre. Madame des Tournelles tressaillit et sans répondre appuya doucement la main sur l'épaule de Berthe. Ses yeux étaient devenus tout humides. Berthe, émue, s'agenouilla auprès d'elle. La mère l'entoura de ses bras. « Encore ? » murmura-t-elle à mi-voix. « Puis toujours, malgré moi, » répondit Berthe tout bas. Quelques mots sont nécessaires pour expliquer l'influence prolongée de cette date. Un jour, à l'âge de 12 ans, et à propos d'un travail que son père lui avait imposé, Berthe se montra si revêche, si acerbe, si cassante, que M. des Tournelles, pris tout à coup d'un mouvement de colère irrésistible, leva la main et la frappa au visage. Berthe poussa un cri et tomba par terre inanimée. Son visage était vert. Quand elle se réveilla d'un long anéantissement et brisée par la violence de spasmes convulsifs, son premier regard rencontra son père debout au pied du lit, tout pâle et décomposé. Elle lui tordit les deux bras. Monsieur des Tournelles l'embrassa en pleurant et sortit pour qu'on ne le vît pas éclater en sanglots. Berthe le suivit des yeux. Aussitôt que la porte se fut refermée, Ah, dit-elle en se tournant vers sa mère, qui la soutenait sur l'oreiller, quel bonheur que j'ai eu tort! Sans cela, jamais je lui aurais pardonné. Madame des Tournelles ne vit pas plus de 5 ou 6 fois le retour de cette date terrible. Peu de jours avant d'expirer, elle avait fait approcher Lucile de son lit et lui montrant Berthe debout contre la fenêtre. « Prends garde à l'eau qui dort, dit-elle. Il y a quelque chose en elle qui se dégagera, je ne sais quoi, mais aime-la bien. » Cette recommandation où l'accent de l'inquiétude se mêlait à la prière fut la dernière parole qu'elle échangea avec Lucile. Elle ne pensa plus qu'à Berthe, que ses regards incertains suivaient partout. Que deviendrait-elle quand elle ne serait plus là? Vers quelle destinée la pousserait ce caractère indéfinissable dont il était impossible de rien augurer? Le mal extrême ne pourrait-il pas en sortir comme le bien? Mais quel problème s'agitait dans cette âme fermée qui s'ignorait? La pauvre mère se reprochait quelquefois à cette constante préoccupation qui donnait tout à l'une au détriment de l'autre. Alors elle prenait la main de Lucile. « Ne m'en veuille pas, disait-elle. Tu me fais pas peur, toi. » Lucile, qui fondait en larmes, embrassait Berthe, qui ne pleurait pas, mais qui étouffait. Un soir, Madame des Tournelles, qui n'avait pas quitté sa fille cadette des yeux depuis plusieurs heures, laissa voir sur son visage une expression de joie dont le rayonnement l'illumina tout à coup. Elle fit de la main signe à Berthe de s'approcher. « Écoute bien, dit-elle, je te recommande ton père. Il va se trouver seul. Lucile l'aime bien, mais elle représente et tout pour elle, et puis ta sœur est l'aînée, elle se mariera bientôt. Si tu fais comme elle plus tard, ne le quitte jamais, remplace-moi. » Elle tenait les deux mains de Berthe entre les siennes. « Me comprends-tu bien ? Reprit-elle. Ce sera difficile dans les commencements, mais si tu sens quelque fatigue, pense à moi, et petit à petit, ton caractère se pliera à le rendre heureux. Me le promets-tu ? » Berthe baisa la main de Madame des Tournelles. Pas, mon enfant. À présent, je suis plus tranquille, reprit la mère. La pauvre femme était plus tranquille, en effet. Elle venait d'imposer le frein du sacrifice à ce caractère indomptable. Ce don de seconde vie qui illumine parfois l'esprit des mourants lui avait fait comprendre que l'accomplissement et les fatigues d'un devoir étaient les seules barrières capables de maintenir Berthe dans la règle et dans la soumission. Il fallait qu'elle usât ses forces dans la poursuite d'un but et lui montrait le plus difficile en intéressant son cœur au résultat pour qu'elle y trouvât l'encre de salut. Et le lendemain, Madame des Tournelles partagea ses bijoux également entre ses deux filles et mourut sans bruit, simplement comme elle avait vécu. L'hôtel de la rue Miroménil resta fermé pendant 18 mois. Monsieur des Tournelles y vécut profondément retiré, loin du monde, n'admettant entre ses filles et lui qu'un très petit nombre d'amis qui respectaient sa douleur. Elle était immense. Dès ce jour, il adopta un vêtement de deuil qu'il ne quitta plus. Aucun des objets qui avaient servi à Madame des Tournelles ne fut changé de place. Tout dans l'appartement où il continua de vivre demeura dans l'état où elle l'avait laissé. Il s'imprégnait de son souvenir, il respirait dans son air. Dès lors, on vit combien avait été vif et profond cet éclair de divination qui avait entraîné la mourante à soumettre sa fille à la discipline du dévouement. Le chagrin sans bornes de M. des Tournelles en fut adouci. Mais la plus grande somme de biens profita à perte elle-même. Dans la pratique quotidienne de cette tâche qu'elle avait acceptée, elle éprouva une sorte d'apaisement intérieur qui l'étonna d'abord. Ce n'est pas qu'elle n'eût très souvent encore des révoltes et comme des réveils terribles de cet esprit rebelle qui grondait et s'agitait au fond de son être, mais elle en était plus maîtresse et le domptait avec des efforts moins vifs et moins douloureux. Elle avait promis de se consacrer à cette œuvre de salut, elle s'y acharnait, et les plus dures aspérités de son caractère s'effaçaient lentement, une à une, sous le travail persévérant de sa volonté, comme les nœuds d'une planche de chêne sous le passage actif du rabot. Elle ne devinait pas encore ce doux mensonge de Madame des Tournelles, cette ruse pieuse qui lui montrait un père à consoler alors qu'il s'agissait d'une fille à sauver. Plus clairvoyante, Berthe eût été moins prompte à s'observer. Elle eût pu facilement lâcher la bride à la fougue et à l'intempérance de ses instincts. Cependant, si large que fût le changement qu'on remarquait en elle, il n'était pas tel encore que l'eau qui dort eût mérité de perdre son surnom. Que d'heures passées sous l'ombre du vieil ormeau, seule avec elle-même, et les agitations qu'elle ne voulait plus subir et qui la tourmentaient par moments. Elle combattait les emportements de son caractère par le silence et voulait le dominer par la concentration. Elle avait alors conscience de son indiscipline et ne concevait pas bien qu'on en eût toléré si longtemps les violences. Ce qui était excusable à 12 ou 15 ans dans toute l'ardeur bouillonnante d'un sang qui coulait comme une eau vive et dans lequel son père se reconnaissait tout entier, devenait impossible à 18. Elle était résolue à se vaincre elle-même. Le bonheur d'un père ne lui avait-il pas été confié? Faillir à cette tâche, n'était-ce pas le fait d'un cœur lâche et d'un esprit timide? L'honneur, la tendresse filiale, le respect d'elle-même, tout lui faisait un devoir sacré de tenir sa promesse. À cette époque de sa vie, on la voyait errer au milieu des grandes pièces de l'hôtel et passer des salons déserts aux jardins solitaires, fuyant sa sœur, silencieuse comme une ombre qui cherche les lieux où elle a vécu et souffert. « Étrange fille !» disait le père. « Pauvre âme !» avait dit la mère. Et l'eau qui dort, perdue dans de profondes méditations et de cruels efforts, demandait parfois à Lucille le secret de sa tranquillité. « Que tu es heureuse !» disait-elle alors. « Tu descends le fleuve, et moi, quelque chose me pousse toujours à le remonter. » Un jour, après une de ces crises qui devenait de plus en plus rare et dont Berthe sortait par un de ces mouvements soudains qu'elle ne prévoyait pas plus qu'elle n'y échappait, M. des Tournelles, fasciné en quelque sorte par la chaleur et l'impétuosité franche de son élan, la prit dans ses bras et, saisissant sa tête à deux mains, « Oh, si jamais quelqu'un t'aime, dit-il, ce quelqu'un t'aimera bien. » « Je l'espère, répondit Berthe. » Quelque temps avant la mort de Madame des Tournelles, bon nombre de personnes, grands-parents ou amis officieux, s'étaient présentés à l'hôtel de la rue Miroménil dans des intentions faciles à deviner. Le maître de forge, qui ne voulait pas marier ses filles avant leur 20e année, avait écarté toutes les demandes. Quand il eut rouvert ses salons, on y vit reparaître, en foule, toutes les mères qui avaient des fils à pourvoir et l'escadron volant des chercheurs de belles dotes. L'heure était venue de faire un choix, mais sans abdiquer tant s'en faut l'autorité d'un père. Monsieur des Tournelles, il voulut que ses filles eussent toute liberté d'apprécier les mérites des candidats qui leur venaient des quatre coins de Paris. Après les bals où il les avait conduites, volontiers il mettait l'entretien sur le chapitre des jeunes gens qui avaient dansé avec Lucille après avoir dansé avec Berthe. On les passait au laminoir de la critique. La réflexion de l'une venait en aide à l'observation de l'autre. Et l'entretien fini, le plus souvent, il ne restait plus rien des beaux messieurs qui aspiraient au mariage par le chemin de la valse et de la polka. On avait saisi les papillons par les ailes et leur riche couleur avait disparu. Un nom, cependant, n'avait jamais été prononcé dans ces confidences familières auxquelles Berthe ne se mêlait pas sans une certaine contrainte et où elle apportait plus d'amertume et plus d'ironie que sa sœur. C'était celui de Francis d'Auberive qu'un ami de province avait présenté à M. Détournelle. Francis était un jeune homme de Dijon qui avait quelques terres dans le voisinage des Forges, si longtemps exploitées par M. Détournelle, et qui habitait Paris les trois quarts de l'année. La connaissance faite, on l'avait chassé de compagnie dans les mêmes bois, et une certaine intimité avait été le résultat des relations continuées dans le laisser-aller de la campagne. Avec ses 30 ans et quelques anses, Francis se comportait alors comme un reître en pays conquis. Chaque nouvel an devait amener la réforme, mais les années s'écoulaient et la fortune s'en allait à la dérive. Ce qui lui en restait était placé dans une entreprise de charbonnage au fond de laquelle on ne voyait pas bien clair. On assurait en outre que le peu de terre qu'il possédait encore était grevé d'hypothèques nombreuses. Le meilleur de son avoir était alors représenté par une tante, qu'il aimait beaucoup et qui passait pour fort riche. Mais la bonne dame, qui vivait retirée au fond de sa petite ville, était fort sujette à des lubies. Tout son bien pouvait s'engloutir dans des fondations pieuses ou être partagé entre 20 collatéraux qui l'assiégeaient. Francis n'était pas un méchant garçon et ne manquait pas d'esprit. Néanmoins, on aurait vainement battu la province avant de trouver un notaire qui l'eût accepté pour gendre. Ses bonnes qualités sautaient aux yeux de tout le monde. Par malheur, un ménage ne vit pas seulement de gaieté, de franchise, de courage et de facile humeur. À 30 ans, Francis regrettait la vie décousue qu'il a menée. Mais il continuait par habitude et désœuvrement. Il s'estimait trop vieux pour en changer. Personne ne savait comment il finirait. Il eut l'occasion de voir fréquemment Lucille et Berthe pendant les séjours plus longs qu'elles firent à la campagne après la mort de leur mère. Il était leur voisin et son cheval, quand il eut lâché la bride, s'en allait tout droit à la Marelle. C'était ainsi qu'on appelait l'habitation de M. Détournelle. Francis était sûr d'y recevoir bon accueil. Seule Berthe ne lui parlait pas beaucoup. Mais on la connaissait, il ne s'y arrêtait pas. Quant au maître de forge, il lui serrait cordialement la main et vaquait à ses affaires. La visite faite, Francis était libre de rester à dîner ou de revenir dans la soirée prendre le thé. Dans les premiers temps, la présence assidue de M. d'Auberive à la Marelle avait aiguisé les caquets de la province. On n'avait pas manqué d'y voir l'indice d'un projet de mariage. Si les fortunes n'étaient pas égales, Francis était d'une bonne noblesse du Morvan. Ses ancêtres avaient figuré dans le Parlement de Dijon et dans les armées du roi. L'un d'eux avait péri à la bataille de Morat. Le blason pouvait donc corriger le défaut de richesse. Malheureusement, la conduite du jeune gentilhomme donna un prompt démenti au faiseur de projet. On ne le vit jamais rechercher la présence de Lucille ou de Berthe et causer dans les petits coins. Il ne flattait guère M. de Détournelle et le combattait même quand leurs opinions ne se rencontraient pas. Le galant ne se montrait en rien. Il ne cachait pas ses défauts et parlait de ses folies en homme qui n'en sait pas le nombre. Lucille était avec Francis sur le pied d'une familiarité aimable, telle qu'elle peut exister entre des jeunes gens qui, en temps de chasse, ont déjeuné sur l'herbe et dansé le soir au piano avec 7 ou 8 voisins de bonne humeur. Berthe était plus réservée. Quand elle entendait Francis rire avec sa sœur, elle s'écartait. Les conversations qu'ils échangeaient avaient un air de gêne, dont la cause échappait à Francis. S'il voulait badiner, elle se taisait. Monsieur d'Aubrive pensait qu'il était la victime d'une antipathie innée. Mais sans en perdre le sommeil, il en était chagrin. L'eau qui dort ayant en elle quelque chose qui l'attirait. Un jour, qu'il regagnait à pied son petit château, il rencontra Berthe qui marchait le long d'un ruisseau bordé de saules. Elle l'aperçut et prit à travers le pré. Il hâta le pas et l'atteignit bientôt. Mais pourquoi m'évitez-vous? Lui dit-il, et que vous ai-je fait? S'il vous déplaît de me rencontrer chez vous, malgré la cordialité que me font voir M. Détournel et Mademoiselle Lucile, je renoncerai à des relations où je trouvais un grand charme. Je suis comme l'oiseau sur la branche. Demain, je serai parti. Mais dites-moi pourquoi vous me répondez par de grands saluts quand je vous tends la main. Berthe reprit tranquillement le chemin du ruisseau. Vous voulez le savoir? Répliqua-t-elle nettement. Eh bien, c'est parce qu'il m'est désagréable de voir un homme de votre âge gaspiller sa vie et ne faire rien qui vaille. Francis ne put réprimer un geste de surprise. Bonté du ciel, vous n'y allez pas de main morte, dit-il en riant. Mais j'aime mieux cela, au moins sait-on à quoi s'en tenir. Donc, à votre avis, je pourrais employer mon temps plus utilement. Berthe lui montra les ouvriers d'une ferme voisine qui travaillaient aux champs. Oui, vous seriez vigneron ou bouvier, reprit-elle, que cela vaudrait mieux. Ah, on n'est pas toujours le maître, répondit Francis avec l'accent de la tristesse. Mais n'avez-vous pas 30 ans? N'êtes-vous pas orphelin? Dit-elle d'une voix impérieuse, où perçait le sentiment de l'indignation. Oh, 30 ans, je les ai depuis quelques mois. Orphelin, oh, je le suis certainement, et c'est peut-être à cela que j'ai dû ne pas être libre. Berthe regarda son interlocuteur d'un air d'étonnement. Non, vous ne m'entendez pas, reprit-il. Mais comment vous faire comprendre cela? Ce n'est guère aisé. Essayez toujours, on n'est pas si petite fille qu'on en a l'air. Oui, cela se devine assez. Diable, il me semble que je suis comme un écolier devant son professeur le jour où la leçon n'a pas été apprise suffisamment. Expliquez-vous alors, poursuivit Berthe, qui ne put s'empêcher de rire. Eh bien, me comprendrez-vous si je vous dis que dans la vie, les liens, qui sont des chaînes quelquefois, sont des barrières aussi. Ce qui nous gêne nous protège. Faute d'avoir un frein naturel, on arrive à s'embarrasser dans 1000 difficultés qui ne permettent plus de faire un pas librement. Aucune voix familière, aucune main prudente et ferme ne vous a poussé dans le droit chemin. Que penseriez-vous d'un homme qui, au lieu de marcher sur le sentier battu, prendrait à travers champs sous prétexte de courir à sa guise? N'aurait-il pas la chance de s'empêtrer dans des fondrières et des halliers d'où il ne pourrait se tirer qu'au prix de 1000 efforts? Heureux encore s'il n'y laisse pas la moitié de ses vêtements et un peu de sa chair. Eh bien, moi, j'ai fait comme cet imprudent. Je voyais bien le but à atteindre, comme le voyageur voit le clocher de la ville où le repos l'attend. Mais j'étais perdu dans une route folle où chaque effort et chaque nouveau pas ne pouvaient que m'égarer davantage. On arrive bientôt à ne plus rien poursuivre. On marche et c'est tout. Encore, comment marche-t-on? Vous me direz peut-être qu'il y a la raison et qu'elle n'a pas été donnée à l'homme pour être jetée dans un coin comme un outil brisé ou quelque instrument inutile. J'en avais ma petite dose, comme tout le monde, et certainement la raison a sa part d'influence dans les affaires ici-bas. Mais il y a la jeunesse, et l'exemple, et l'entraînement, et la vanité, et la faiblesse, et le long cortège des mauvaises occasions qu'on se garde bien de laisser échapper. Je suis entré dans la vie sans garde-fou, et voilà pourquoi je n'ai pas toujours été le maître. Tout cela fut dit avec un accent de bonhomie et de franchise où l'on sentait une pointe de mélancolie. Berthe se rapprocha de Francis. Il lui prit familièrement le bras. Ça, ajouta-t-il, à présent que ma confession est faite, me donnerez-vous la main? Ah, cela dépend, répondit-elle. J'y suis disposé, mais il faut que vous rebroussiez chemin. Francis se mit franchement à rire. Oh, la singulière personne que vous êtes, dit-il. Vous parlez des choses les plus difficiles, comme de croquer des groseilles. Mais songez donc que j'ai 30 ans. Vous saurez un jour ce que c'est. Très tard, sans doute, mais enfin vous le saurez. Mais là, je n'y fais rien. Il suffit de vouloir, répliqua-t-elle brusquement. La pluie vint à tomber. Ils entrèrent dans une méchante hutte bâtie par un garde au bord d'un bois. Assis côte à côte sur une large pierre plate et les pieds dans la mousse, ils regardaient devant eux. Un troupeau de brebis paissait dans une lande. Le berger, roulé dans sa cape, mangeait un morceau de pain sous un arbre. Le paysage n'avait pas d'étendue. Monsieur d'Aubrive le trouvait charmant, bien qu'il regardât sa voisine plus que la campagne. La jeune fille avait les narines gonflées et cassait les brindilles de bois sec entre ses doigts par un petit mouvement nerveux. Vouloir, reprit Francis, c'est bientôt dit, mais c'est déjà pas si aisé. Un pli se creusa dans les sourcils de Berthe. Et qu'importe que ce soit aisé si on le peut, dit-elle. Monsieur d'Auberive étendit la main dans la direction du berger, qu'on voyait debout contre le tronc d'un vieux frêne. Voyez cet arbre, reprit-il. Le vent l'a courbé lentement. Comment fera-t-il pour se relever? Berthe lui désigna du doigt un plant de vigne qu'on apercevait à l'autre bout de la lande. Mais voyez ces pampres, dit-elle à son tour. N'étaient-ils pas couchés par terre? Une main a planté des échalas, ils sont debout. Oui, mais une main est venue, répondit Francis. C'est vrai, dit Berthe naïvement. Il y eut un silence.